qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Bienvenue à toutes et à tous, plaisir de vous retrouver malgré ce ciel pluvieux. Eh bien, on est heureux quand même d'être avec vous et avec moi également, comme tous les lundis. Bonjour David Urchala.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous allez bien sûr dans quelques instants nous parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et vous nous prouvez chaque semaine qu'il se passe toujours quelque chose au sanctuaire.
Oui, c'est vrai, il y a toujours quelque chose. Pourtant, je peux vous dire que quand même c'est assez calme cette semaine. On est en novembre quand même, fin novembre.
Voilà, fin novembre.
Et on se prépare à faire plein d'événements.
Ah, oui, oui. On vous a parlé, bien sûr, dans quelques instants. Et puis, on parlera. Ils étaient déjà venus sur Radio Présence. Et ça a été un fort succès, puisqu'ils ont récupéré plus de 3 000 euros sur un week-end pour la rénovation des vitraux de l'église de Loubajac. Eh bien, ils avaient promis qu'ils feraient d'autres propositions. Eh bien, ce sera un concert de Noël avec les chanteurs montagnards de Lourdes. Ça sera la semaine prochaine. Et on en parle avec la présidente de cette association qui œuvrait pour essayer de récupérer de l'argent pour restaurer cette belle église. Et puis Lourdes et Loubajac a une belle histoire.
Oui, c'est vrai.
Premier pèlerinage.
Et puis même la première acculée de Lourdes, Catherine Latapie, qui était originaire de Loubajac.
Voilà, ils ont même inauguré d'ailleurs une salle, Catherine Latapie, donc à Loubajac. Et puis, on parlera de catéchuménat, puisque l'invité de Mathias Terrier, dans De Passage à Lourdes, sera Raphaël Pointier. Il était de passage à Lourdes, il nous racontera donc sa conversion et son baptême. Voilà, le sommaire de ce magazine. Mais tout de suite, on retrouve l'essentiel de l'actualité de ce lundi 24 novembre.
Dans le Lot, Rocamadour s'est illuminé en rouge pour la Red Week 2025 organisée par l'aide à l'église en détresse pour dénoncer les persécutions religieuses. Des centaines d'églises dans le monde y ont participé. Dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes, le collectif unitaire propose logements sociaux, rénovation énergétique et budget participatif. Il faut rendre le pouvoir d'agir aux Tarbais, explique Kevin Gracia, chef de file pour les municipales 2026. Dans le Gers, la Confédération paysanne s'oppose à la Chambre d'agriculture qui veut reprendre le contrôle des aides à l'installation. Elle déposerait une motion le 25 novembre pour défendre le pluralisme. Dans l'Aveyron, à Millau, le film « La France est-elle ingouvernable » sera projeté le 27 novembre. Jacques Gaudreuil, Emmanuel Gazel, Daniel Lecomte et Denis Jambard participeront ensuite à un débat ouvert au public. Dans le Tarn, les anciens mineurs de l'Aspic commémorent aujourd'hui à Carmaux le 60e anniversaire de la catastrophe du puits de la Tronquée, qui avait coûté la vie à 12 mineurs en 1965. En Haute-Garonne, la Toulouse Fashion Week revient les 28 et 29 novembre pour mettre en avant 24 créateurs internationaux autour du thème « L'héritage ». Défilé chaque soir à 20h. En Ariège, à Vira, le duo Simon et Daniel remportaient le concours « Fête de la soupe » avec une recette originale à base de céleri rave, pois cassés et pommes. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, Beaumont de Lomagne a battu Malmort 32 à 9 en Fédéral 2 ce week-end. Les Lomagnols ont pris l'avantage dès la première mi-temps et remontent au classement.
Voilà des voix de jeunes journalistes puisqu'ils sont à l'école supérieure de journalisme de Toulouse et c'était à l'instant Kevin Mouveau qui était avec nous et qu'on retrouvera à 12h30 pour le journal complet.
Présence à Bagnères-de-Luchon 94 FM.
Une autre actualité que nous aimons sur Radio Présence, c'est celle du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, en votre compagnie, David Torchala. Alors, il se passe, on le disait tout à l'heure, toujours quelque chose. On va sur de grandes dates et de grands moments au sanctuaire.
Oui, évidemment, on avance vers Noël avec donc le dimanche, le 30 novembre, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Et donc, cette fois, le sanctuaire souhaite inviter toutes les personnes qui sont là pour appuyer sur le bouton et pour illuminer un grand sapin de Noël qui sera en place sur la grande esplanade du sanctuaire. C'est un sapin qui a été offert par la municipalité de Lourdes. C'est un épicéa. Il vient du bois de Lourdes, un peu sur les hauteurs du sanctuaire. Il y a de grands bois. Vous savez, il y a beaucoup de nature autour du sanctuaire. C'est un arbre qui est dédié à être coupé parce qu'il est un petit peu malade, mais il a encore bien ses épines. Alors, ben, du coup, il aura une belle fin de vie puisqu'il sera honoré. Et donc, il trônera ici près de la Vierge couronnée. Et donc, samedi, 29 novembre, si vous êtes là, venez. Vraiment, c'est une invitation qui est peu habituelle au sanctuaire. Et donc, on va chanter des chants de Noël. Ça sera à 17h sous les arcades avec le chœur des chapelains du sanctuaire. On sait que les chapelains du sanctuaire aiment chanter. Ils aiment chanter à tour de rôle dans les célébrations. Ils aiment aussi chanter ensemble, évidemment. Ils ont l'habitude de prier, donc ils ont l'habitude de s'accorder. Et donc, ils nous font la joie de composer ce chœur pour l'occasion, en présence du recteur, le père Michel Dauban, qui appuiera, je pense, sur le bouton rouge pour lancer l'illumination du sapin. Puis on offrira aussi un chocolat chaud pour vivre ce temps-là. Alors, il n'y aura pas seulement cette nouveauté du sapin, il y aura aussi une grande crèche qui sera installée sur le parvis du rosaire en extérieur avec une grande étoile. Enfin, il ne faut pas trop que je parle pour que vous ayez quand même la surprise en venant voir tout ça. Il y aura aussi une exposition de crèches du monde. Alors merci à ils ont été nombreux, hein, les personnes à répondre à l'appel du sanctuaire de venir avec une crèche qu'ils affectionnent, qui vient soit des collections personnelles, soit d'une région, d'un pays ou quoi. Et donc ils sont nombreux à avoir proposé des crèches. Elles seront exposées à l'entrée du sanctuaire, à la porte Saint-Joseph. Et puis aussi, en nouveauté, il y aura 3 spectacles théâtrales sur le parvis du Rosaire, le 21, le 28 décembre et également le 4 janvier, dans l'après-midi à 15h, des scènes théâtrales qui seront données par la communauté du Cenacolo de Lourdes. Alors évidemment, il y a plein de propositions au temps de Noël, mais je trouvais important de vous le dire un petit peu avant pour se dire, ah ben tiens, cette fois-ci, je passerai au sanctuaire pendant ce temps de Noël, tous les soirs à 18h30, vraiment, on se plonge dans une ambiance musicale avec les illuminations du sanctuaire et puis toujours un chapelet au flambeau à la grotte à 20h30 tous les soirs. Voilà un lieu qui n'est pas ordinaire pour vivre, mais en tout cas ça nous plonge vraiment dans cette attente qui va nous mener jusqu'à la nuit de Noël.
Alors vous allez nous parler maintenant également d'un petit pèlerinage qui arrive, c'est celui des agriculteurs.
Oui, et ça sera ce week-end avec Marie témoigner de l'espérance au cœur des réalités du monde agricole. C'est le deuxième pèlerinage des agriculteurs, en tout cas sous cette forme d'organisation, qui sera conduit par Mgr Didier Noblot, qui est l'évêque de Saint-Flour. C'est l'évêque accompagnateur de toute la réalité et tout le monde et la mission agricole. Ils seront à Lourdes et d'ailleurs on sera en direct avec eux vendredi. Ça n'a échappé à personne. Nous sommes dans une semaine où on prépare le radiodon sur Radio Présence, donc avec des jours de fête. Et on a fait le choix d'être aussi auprès des agriculteurs. Ils sont très nombreux à nous écouter. Et en tout cas, ben voilà, on pourra donner la parole et vraiment qu'ils puissent continuer à témoigner sur à la fois l'espérance, mais aussi la fragilité de la vie. On sait les épreuves qu'ils traversent. Mais voilà, ils sont aussi évidemment dans l'espérance. Hein, ce jubilé se poursuit. Ça sera Anne-Rose Jankovic qui animera vendredi. Et par contre, moi, il faut que je me dépêche de préparer parce que demain, je vous prépare une petite surprise.
Une petite surprise demain, de midi à 13h.
De midi à 13h.
On peut même dire que Lourdes rayonne sur la capitale.
Oui, c'est vrai.
On nous en avait un peu parlé la semaine dernière.
Ben c'est ça, en fait. C'était chose promise, chose due. On sera en direct de la ciergerie de Lourdes. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais que la votive qui est produite par la ciergerie de Lourdes, la votive de Notre-Dame de Paris, a été exposée à l'Élysée. Ils étaient fiers tous nos amis de la ciergerie de Lourdes, et donc on sera avec eux demain pour vraiment dans la salle des machines au milieu des manèges. Je sais pas si ça fera du bruit, écoutez.
C'est ça la radio aussi, hein.
Oh ben écoutez, vous verrez, vous verrez demain, mais vraiment, on a envie d'être au cœur des machines, vraiment dans cette magnifique manufacture, une entreprise du patrimoine vivant. Il y a plein de choses à découvrir et c'est vraiment un lieu très 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 méconnu, hein. Si on peut pas rentrer comme ça si facilement.
Alors les anciens Lourdais, quand on était petit, on allait visiter la ciergerie lourdaise avec l'école. J'en garde un beau souvenir.
Je vais vous dire, maintenant il y a même le petit train. C'est vrai qu'on peut visiter. Voyez, il faut vraiment que je prépare mon émission pour.
Merci beaucoup David. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler du 8 décembre là, qui approche aussi.
Oui, très bien. Et ben on se voit demain en direct de la ciergerie.
Demain direct, émission donc spéciale. Notez, on sera donc à la ciergerie lourdaise, donc à Lourdes. Merci David. Et puis on va se plonger nous aussi un peu dans Noël, puisque les invités que je reçois, bien on va parler d'un concert de Noël pour la bonne cause, la restauration des vitraux de l'église de Loubajac à côté de Lourdes. Merci David, à la semaine prochaine.
Sur le COS 106.5.
On dit que l'union fait la force, on va en avoir la preuve aujourd'hui à travers cette émission. Je suis très heureux de retrouver Nadine Vivès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle l'ASPL, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine loubajacais. On est arrivé à trouver l'acronyme, donc c'est l'ASPL. Oui. Vous êtes accompagné de Daniel Van Vien, c'est
Van
ça
Vien.
Van Vien, pardon. Bon, vous êtes la vice-présidente de cette association. Et quel plaisir, c'est la première fois qu'il fait une interview. Il a l'air tout intimidé, ce qui paraît absolument incroyable. Alain Capérette, qui représente les chanteurs montagnards de Lourdes. Bonjour.
Bonjour.
Plaisir de vous avoir. On s'était rencontrés au mois de septembre. Vous nous aviez expliqué... le pourquoi, la création, quand je dis que l'union fait la force, c'est parce que vous êtes associé pour la sauvegarde des vitraux de l'église de Loubajac.
C'est ça.
Et vous avez décidé de trouver, il faut trouver 20 000 euros. Donc il y en a qui se lamentent et puis il y en a qui se retroussent les manches font des actions. On s'était retrouvés pour un beau week-end, le samedi 20 et 21, même, alors beau week-end parce que ça a été le succès. Au niveau météo, c'était pas ça et c'était dommage parce que je pense que la fête aurait été encore plus belle si.
Oui, c'est exact. Oui, c'était un week-end chaleureux mais pluvieux.
Mais pluvieux, voilà. Et on dit pluvieux mais heureux, donc voilà. C'était très bien. D'abord, vous féliciter parce que le succès a été au rendez-vous. Que ça soit pour le concert avec Voxitanie le samedi 20 à l'église.
Oui, nous avons eu une centaine de personnes.
Voilà, et puis le 21, donc il y avait cette messe, et puis l'inauguration d'une salle bien particulière.
Oui, c'est
la salle Catherine Latapie, première miraculée de Lourdes. Qui était de Loubajac.
Et oui, parce que Loubajac, dans l'histoire de Lourdes, a une place très importante. Hein.
Premier pèlerinage.
Exactement, qui vient de Loubajac et au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Je vois Alain Capérette qui connaît son histoire par cœur et qui acquiesce absolument ce que vous êtes en train de dire. Et puis ensuite, vous aviez proposé toute la journée un marché gourmand.
Oui, on a eu une dizaine de producteurs. Mais bon,
qui ont quand même répondu présent.
Ils ont tous répondu présent.
Moi, j'ai vu les photos, ils avaient le sourire. Donc,
oui, ils avaient tous le sourire. Voilà. Bon, on a fait en sorte qu'ils soient à l'abri.
Oui.
Ça a été un peu compliqué.
Des chapiteaux.
Un peu compliqué le matin même. On avait monté les chapiteaux et dans la nuit, on a eu un coup de vent qui nous a tout mis par terre. Il a fallu tout remonter à la dernière minute, mais bon, ça en est sorti.
Exactement. Et le succès était au rendez-vous. Et le repas qui a été proposé a fait carton plein.
Énorme.
Oui.
230
couverts.
Oui. 230 couverts.
Oui.
Alors, moi, je me souviens quand vous étiez là, vous m'avez dit si on en fait 110, 120, on est contente. Patrick, une assobiscaille qui était le cuisinier, a dit on peut monter jusqu'à 190 et vous m'annoncez 230.
230, bah,
écoutez, dont 20 enfants.
Ouais, voilà. C'est super.
La salle était pleine.
On a refusé du monde.
Oui.
Ça fait chaud au cœur,
oui.
Je pense.
Ah oui, les gens ont répondu présent, c'est bien.
Ce qui vous a permis
Alain y était.
J'étais aussi.
Et alors, c'était bon ?
C'était bon.
Et sympathique.
Et c'est très sympathique.
Vous confirmez ?
Je confirme.
On va parler un peu de l'histoire de ces vitraux. On va replonger un peu dans la genèse de votre association. Hein.
Oui.
Vous êtes des paroissiennes. Vous avez l'habitude d'aller à l'église et vous êtes aperçu, je crois, qu'il pleuvait dans l'église. Racontez-nous. Je ne sais pas qui veut...
La toiture a été refaite il y a 20 ans.
Oui.
Oui, donc,
Nadine Vives, oui.
Mais il y a... Bon, on s'est aperçu pour une cérémonie qu'il y avait un courant d'air, de la pluie qui arrivait.
Du sable qui rentrait.
Du sable, et on a vu que c'était un vitrail qui était perforé. Donc on a commencé à inspecter les autres et tous ils avaient des faiblesses. Donc on a dit il faut faire quelque chose, on a fait passer un artisan pour faire un devis. Quand on a vu
l'étendue des dégâts,
on a dit il va falloir se remuer un peu pour trouver des fonds. Et c'est l'idée tout le monde a répondu présent pour monter cette association et trouver des actions pour...
Pour essayer de récupérer des fonds, comme par exemple ce week-end vous a permis de récupérer 3600 euros de bénéfices à travers toutes les opérations que vous avez fait ce week-end-là. Il faut arriver à 20 000, donc il y a encore une belle marche à accomplir. Et donc vous allez programmer plusieurs manifestations, dont celle dont on va parler maintenant, c'est celui d'un très beau concert de Noël avec ces magnifiques voix des chanteurs montagnards de Lourdes.
Oui.
Donc ce concert, il aura lieu quand ?
Le 6 décembre.
Le 6 décembre, donc à l'église
de Loubajac. Voilà.
À 20h30.
À 20h30, oui.
On se plonge déjà un peu dans la magie de Noël.
Oui.
À travers ce concert, et c'est beau, un concert de Noël dans une église, avec des voix magnifiques. On invite vraiment les gens à se noter cette date. Le 6 décembre, 20h30, église de Loubajac.
Samedi.
Nous avons la chance d'avoir un représentant des chanteurs montagnards. Les concerts de Noël sont très prisés.
Oui.
Vous aimez, je pense, aussi chanter ce genre de concerts.
Voilà, ils sont autant comme ils sont bien prisés, comme ils sont exceptionnels, bien sûr. Et bon, on fait que ça sur cette période de Noël. Et tous les ans, il faut se remettre dans le bain de laisser tout le reste et repartir là-dessus sur tout ce qu'on apprend, qui est composé à peu près d'une vingtaine de chants de Noël.
Deux mots sur les chanteurs montagnards. Chanteurs montagnards, groupe mythique de Lourdes, puisqu'il y a plusieurs chanteurs montagnards, mais c'est bien les chanteurs montagnards de Lourdes qui seront là. Vous êtes combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est composé d'une quarantaine de chanteurs, avec une vague de jeunes là qui nous arrivent. On en a cinq là qui sont arrivés d'un coup.
Il y en a beaucoup de Loubajac.
Il faut le signaler, principalement de Loubajac.
Oui.
Il y en a quatre de Loubajac déjà. Oui. Et puis des jeunes, quoi.
C'est une fierté, ça, non ?
Bah, un petit peu, oui.
Ah ouais.
Ils ont 19 ans, 20 ans, 21 ans. Bon, je ne sais pas s'ils resteront là, mais pour le moment, ils sont bien assidus et ça se passe bien.
Et ça se passe bien.
Le plus dur, ça a été de les caler dans les pupitres, parce qu'on est composé de quatre pupitres.
Et voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas les pupitres.
Alors, les pupitres, il y a ténor 1, c'est-à-dire ceux qui en voient de tête un peu, disons, les ténors 2, les barytons et les basses dont je fais partie. Mmh. Et voilà. Et il se trouve que des jeunes qu'on a recrutés, on a beaucoup de basses. Pourquoi, j'en sais rien.
Le mot grave.
Voilà. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont mué ou qui vont muer ou... Parce que peut-être souvent, on a des gens qui commencent dans un pupitre et puis ensuite qui vont.
En grandissant, oui. Voilà,
la voix est défolue. Mais voilà, bon, l'ambiance est toujours très bonne. On vient de fêter nos 160 ans, la dernière.
Avec un très beau spectacle.
Très beau spectacle, très prenant.
Oui, avec beaucoup de travail.
On a eu très 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 peur, mais bon, on est passé.
Mais le résultat était magnifique.
Voilà, il paraît que le résultat était bien.
Oui,
voilà.
Je peux le confirmer, j'y étais. Donc c'était vraiment magnifique et vous étiez venu faire la promotion de ce spectacle ici à Radio Présence. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Les répétitions, ça se passe où et à quel rythme les chanteurs montagnards ?
Alors les répétitions se passent toujours à la salle Fialo qu'on a eue de par la mairie de Lourdes, qui nous est complètement attitrée, qui se trouve en bas du Pic du Gers.
Oui.
Et on a répétition tous les jeudis soir.
Tous les jeudis soir.
Voilà, tous les jeudis soir. Pour avoir concert ensuite, ou le samedi, ou le dimanche, ça dépend de la disponibilité.
Et donc, ben, effectivement, on répète, on chante, mais ce qu'on aime bien, je pense, quand on est chanteur, c'est se produire en concert.
Voilà.
Et donc, vous avez toute une série de concerts tout au long de l'année.
Voilà.
Et particulièrement donc pour les fêtes de fin d'année, ces concerts de Noël, donc vous êtes associé avec cette association, la SPL, pour ce vendredi 6 décembre.
Samedi
6 décembre, à l'église de Loubajac, donc ce concert de Noël. L'entrée a été fixée à quel prix?
Oui, à 10 euros.
Oui. Voilà, donc 10 euros, effectivement, c'est pour trouver des fonds, on l'a dit, pour la restauration de ces vitraux. 20 000 euros à trouver, donc.
On est encore loin, mais on va y arriver.
Mais oui, et donc vous avez d'autres, d'après ce que j'ai entendu en préparant, vous avez d'autres idées déjà pour les mois à venir.
Donc ce sera des rendez-vous.
Deux mots sur le programme qui nous attend quand même dans ce concert. Quelques chants, par exemple, que vous pouvez nous donner, mettre l'eau à la bouche.
Mais il y a entre autres la Marche des Rois, qui est un chant traditionnel d'Occitanie. Il y a Noël Nouvelé, traditionnel un peu plus. Un soir que les bergers, ça c'est un traditionnel bernais. Donc on varie un peu tous les... Réveillez-vous bergers, nous sommes trois souverains princes. Ça, on a beaucoup de... On a des trios et des quatuors. Ensuite, Aupérot, ça c'est un traditionnel de la Bigorre. Suna Campaneta, ça c'est un traditionnel aussi de la Bigorre. Minuit chrétien, douce nuit, vive le vent. On a un panel d'une vingtaine de chansons de Noël.
Les classiques. Le concert, 20 chansons, ça représente quoi?
Une heure et demie de concert.
Avec un entracte?
D'habitude, on ne fait pas pour Noël, mais on verra avec les organisateurs. Organisatrice, pardon.
C'est toujours intéressant d'avoir un petit entracte,
oui,
un peu de buvette. Hein.
À l'église,
pas de buvette à l'église.
Je veux dire quelque chose, pour Noël, on évite de faire une entracte avec de la consommation. Parce qu'après, ça prend trop de temps.
Oui, d'accord. Oui.
On l'a vu pour le spectacle, c'est. Donc, il faut couper une demi-heure ou alors on coupe pas.
Oui.
Et je pense qu'on va pas couper.
D'accord.
Donc, le concert, 1h30, vous voyez que même pendant l'interview, on affine un peu l'organisation de cette soirée et c'est plutôt bien. Donc ce concert bien sûr de grande qualité puisque les chanteurs montagnards vous avez la réputation et chaque fois que vous faites un concert c'est toujours un moment exceptionnel et donc on invite les gens qui veulent se mettre dans cette magie de Noël de venir assister à ce concert parce que on passe déjà une très belle soirée.
Et on en a besoin.
Et vous en avez besoin pour continuer à trouver cette somme pour remplacer les vitraux et remettre cette église qui le mérite bien, hein, puisque c'est. Vous disiez que c'était une réplique, hein, cette église, hein, c'était pas une réplique d'une église du coin, non?
Non.
Pas du tout?
Non, c'était la chapelle
d'un. Mais elle a une histoire, hein, vous avez une histoire. Et puis, bon, oui, comme vous l'avez rappelé, c'est. Loubajac Lourdes, c'est quelque chose qui est important. Hein.
Parce que c'était à la base un donjon pour surveiller les alentours.
Avec le château qui devait communiquer le château.
C'était la chapelle du château.
Il y a des fresques assez exceptionnelles qui ont été trouvées, des fresques du XIIIe siècle.
Oui.
Donc, et qui se visitent. Peut visiter.
Oui, il y a beaucoup de bas-reliefs. C'est une église qui est quand même assez riche.
Les chanteurs montagnards seront présents donc ce 6 décembre à 20h30 à l'église donc de Loubajac, 10 euros. Les chanteurs montagnards, vous serez également en concert, on peut déjà donner les dates, le 12 décembre à Bordère, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, à 20h30.
À 20h30 également. Le 14 décembre à Argelès-Gazost.
Décembre.
Le 14 décembre, donc, à Argelès-Gazost.
Oui, à 17h, là.
À 17h, l'église aussi
à l'église
d'Argelès. Et le 20 décembre, à Morlane, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, à 20h30 aussi, à Morlane.
À 20h30, voilà les quatre concerts. Donc, vous démarrez avec celui donc de Loubajac.
Tout à fait.
Le 6 décembre. Oui. Après ces concerts de Noël, vous bien sûr, il y a la Sainte-Cécile. La Sainte-Cécile, bien sûr, la Sainte patronne des musiciens. Et des chanteurs, et vous allez donc organiser aussi les chanteurs montagnards dans votre agenda, la Sainte-Cécile.
Oui, la Sainte-Cécile qui va se dérouler à l'église paroissiale de Lourdes. Alors ce sera le 29 novembre à 18h30, la messe normale.
La messe chantée.
La messe chantée avec quatre chants de notre messe de Gounod qu'on avait appris il y a une dizaine d'années et qu'on a remis au goût du jour. Voilà, qui seront chantés pendant la messe.
Voilà. Et bien écoutez, à travers les concerts de Noël, et bien venez aussi donc participer à la Sainte-Cécile. Hein. Venez fêter la Sainte patronne des musiciens. Donc le 29.
Le 29 novembre.
Novembre.
À 18h30.
À l'église, donc paroissiale de Lourdes.
Paroissiale de Lourdes.
Vous êtes un groupe, bien sûr, ça doit être hyper satisfaisant d'avoir fait cette première grande opération à travers ce week-end.
Ah oui,
et les gens ont répondu présent. Oui, oui.
Et les bénévoles, parce que ça, en dehors de l'association, ça a drainé du bénévolat autour de nous, exceptionnel. Quoi.
Ça a fédéré le groupe aussi.
Ça a fédéré le groupe, et puis je pense qu'à Loubajac, on doit en entendre parler. Parce que les habitants, quelque part, ils doivent se dire, c'est aussi notre église. Hein.
Oui.
En dehors, même si on n'est pas assidus on n'est pas des chrétiens assidus, des paroissiens classiques, mais c'est quand même si on n'est pas croyant, c'est le monument historique du village.
Oui, c'est le cœur du village.
C'est le cœur du village.
Et toute la paroisse a répondu présent.
Oui.
Exceptionnel, vraiment.
Toute la vallée, parce que.
Toute la vallée, oui.
Oui, on a eu des gens de toute la vallée qui sont
venus se sont aussi sentis mobilisés à travers cette belle cause.
Tout à fait. Oui.
Il y aura ce concert, donc on le répétait le 6 décembre à 20h30, et vous avez déjà d'autres idées. Déjà, peut-être qu'on pourrait. Même si elles ne sont pas finalisées.
Le 7 février.
Non, elles sont finalisées. Le 7 février.
C'est finalisé. Un repas le 7 février. C'est avec Patrick
Unasoubiskaï.
Voilà. Qui va nous concocter un repas, ça sera certainement moules frites.
D'accord.
Voilà. Et comme on n'est pas loin de la Chandeleur, ça sera un dessert à base de crêpes.
Alors, moi, je conseille, quand la réservation sera ouverte, de se dépêcher, puisque le succès est au rendez-vous. Donc, si on veut vraiment participer à cette belle, belle journée, il faut réserver rapidement. Le 7 février.
Il y aura une animation avec Jean-Louis Treille et son groupe.
Qui est de Loubajac, Jean-Louis.
Voilà.
Qui est président.
Président de l'Orphéon
de Luz. Voilà. Oui. C'est vrai. Voilà. Très gentil d'ailleurs.
Très gentil. Oui.
Ils ont un petit groupe de 4 personnes.
Ils sont 3.
3 personnes.
3 ou 4, oui.
Ils doivent être 3 ou 4 personnes qui animent des soirées.
Oui.
Une animation.
C'est une animation.
Tout le repas.
Ils seront là pour le repas. Oui. Du 7 février.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc musique, repas, le côté convivial.
Voilà. Il y aura certainement beaucoup de chants. Ça va chanter.
Parce que Charlie chante.
Ça sera très convivial, oui.
Voilà. D'accord, donc on peut déjà noter le 7 février. Mais votre actualité, donc, c'est déjà le 6 décembre, on le répète, ce concert, donc à l'église de Loubajac, ce concert de Noël, 10 euros, 20h30. Bon, là, il n'y a pas besoin de réserver, on vient et puis...
On vient nombreux.
Et on vient surtout nombreux si on veut profiter avec les chanteurs montagnards de Lourdes donc, qui proposeront ce concert.
C'est un très beau concert. Vous y êtes allé plusieurs fois, c'est beau.
C'est très beau concert, je me souviens de très beau concert que vous aviez fait au sanctuaire. Je pense que vous deviez en avoir aussi
peut-être,
en mémoire, un beau concert de Noël, le sanctuaire à la Basique du Rosaire.
Oui, voilà, oui. Oui, on l'avait fait là aussi, oui.
J'y suis pas au chanteur montagnard, mais je ne sais plus ce qu'on
voit. Il y a eu tellement de dates, ça commence à bien me faire.
Merci beaucoup pour ce que vous faites pour ce bâtiment, pour l'histoire, puis pour l'église de Loubajac. Hein. Merci beaucoup à vous, Nadine Vives. Vous êtes la présidente de cette association SPL, l'association pour la sauvegarde du patrimoine loubajacais, accompagnée de Daniel Van Vien. C'est ça, vice-présidente. Et puis, Alain Capérette, vous représentiez donc les chanteurs montagnards de Lourdes qui donc donneront ce concert. D'autres propositions, on l'a dit, le 7 février, et puis sûrement.
Je voudrais encore remercier Patrick.
Ah oui.
Patrick Unasoubiskaï, oui.
Qui a travaillé bénévolement et qui se prépare de nouveau à travailler bénévolement pour le prochain repas.
C'est quelqu'un qui a du cœur et qui effectivement...
Vraiment, merci à lui.
Il est complètement dans ce style de manifestation.
Oui, et puis c'est un très, très, très bon
cuisinier.
Merci à lui, on lui envoie bien sûr... nos amitiés, s'il écoute cette émission, on n'en doute pas. Donc, dernière fois, je répète... Notez bien cette date, le 6 décembre, 20h30, à l'église de Loubajac, ce concert de Noël. Le prix est fixé à 10 euros, et les 10 euros, vous l'aurez bien compris, c'est pour la restauration donc des vitraux et de l'église de Loubajac. Il y a 20 000 euros à trouver. La dernière fois, vous avez fait 3600 euros. Eh bien, voilà, il faut continuer.
Voilà.
Les petits ruisseaux font des grandes rivières. Donc, effectivement. Un grand bravo à ce que vous faites, hein, tous les membres de votre association qu'on salue. Et merci aussi aux chanteurs montagnards de participer à cette belle cause.
Merci, avec plaisir.
On se revoit très rapidement.
Très bien.
Pour la chandeleur.
Absolument.
Dites à Patrick que pour qu'une émission soit bonne, il faut d'abord goûter les crêpes. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc si vous revenez au mois de février.
D'accord.
Le problème, c'est que les crêpes, ce sont nous qui les faisons. C'est pas Patrick.
Alors, le message est encore plus direct. Merci beaucoup, bon succès à vous.
Et
bonne fête de fin d'année à tous.
Merci beaucoup.
Merci. Présence à Mirande. 104.2.
Allez, avec cette bonne humeur, on va continuer avec l'information qui nous est présentée par Kevin Mouveau de l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour Kevin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le Lot, Rocamadour s'illumine en rouge. C'est la Red Week 2025. Organisée par l'aide à l'église en détresse, AED, pour sensibiliser aux persécutions religieuses, l'événement a commencé le 14 novembre et a pris fin ce week-end. Des centaines d'églises et monuments à travers le monde étaient au cours de cette semaine éclairés en rouge, couleur du sang des martyrs. L'objectif ? Alerter sur la souffrance des chrétiens persécutés. Selon l'AED, 413 millions de chrétiens vivent dans des pays où la liberté religieuse est gravement restreinte. Dans les Hautes-Pyrénées, le collectif unitaire propose un programme ambitieux autour de l'habitat et de l'urbanisme à Tarbes. Leur projet ? Développer des logements sociaux et coopératifs, lancer des rénovations énergétiques pour les logements vacants et instaurer un budget participatif par quartier. Il faut rendre le pouvoir d'agir aux Tarbais, affirme Kevin Gracia, chef de file du collectif de gauche unitaire à Tarbes pour les municipales 2026. Dans le Gers, le ton monte. La Confédération paysanne accuse la Chambre d'agriculture de vouloir reprendre la main sur les moyens dédiés à l'installation. Elle déposera une motion ce 25 novembre. L'idée est de défendre le pluralisme dans l'accompagnement des nouveaux agriculteurs. Le syndicat rappelle que l'ADIR32, autre organisme d'appui, installe un tiers des nouveaux actifs. Il redoute qu'un contrôle accru de la Chambre favorise un modèle intensif. Dans l'Aveyron, à Millau, la politique s'invite au cinéma. Le 27 novembre, le film « La France est-elle ingouvernable ?», sorti en 2009, sera projeté au public. Le documentaire questionne l'instabilité de la France politique et les difficultés de gouvernance. Jacques Godfrin, Emmanuel Gazel, Daniel Lecomte ou encore Denis Jambar seront présents pour l'occasion. Ils participeront ensuite à un débat ouvert à tous. Comptez 6 euros pour l'entrée. Dans le Tarn, les coups de grisou ne s'oublient pas. Les anciens mineurs de charbon de l'association Aspic de Carmo organisent aujourd'hui la commémoration du 60e anniversaire de la catastrophe minière du puits de Tronquier. En 1965, 12 mineurs avaient disparu sous terre après un coup de grisou. Le rendez-vous aura lieu devant la stèle placée au début du chemin des mineurs, commune de Blaye-les-Mines. En Haute-Garonne, la Toulouse Fashion Week fait son grand retour les vendredis 28 et samedi 29 novembre. Menée à bien par l'Institut des Arts et de la Mode, la manifestation a pour mission de soutenir, promouvoir et financer les jeunes talents de la mode et des arts, indiquent les organisateurs. Pour ce faire, l'édition permettra à 24 créateurs venus des quatre coins du monde de s'illustrer sur scène sous la direction d'un thème précis, l'héritage. Les défilés débuteront chaque soir à 20h. Dans la vallée ariégeoise du Douctouir, à Vira, on a tranché. La meilleure soupe de l'année est connue. Le concours Fête de la soupe a réuni ce week-end une vingtaine de recettes entre traditions de grand-mère et trouvailles d'Instagram ou bien en provenance de Marmiton. Le duo Simon et Dany remporte la louche d'or et le bol d'or avec une création mêlant céleri rave, pois cassés et pommes, relevés d'épices et citrons. De quoi en avoir l'eau à la bouche. Enfin, les Lomagnols rendent fiers les Tarnes et Garonnais. L'équipe de rugby de Beaumont de Lomagne a assuré ce week-end en Corrèze en battant Malmort 32-9 sur un terrain difficile, un terrain imbibé d'eau. Les Lomagnols, appliqués, ont pris le large dès la première mi-temps, 19-3, grâce notamment à la com, au pied et à l'essai d'Alois, avant de maîtriser le retour adverse en seconde période. Il remonte ainsi le classement.
Merci beaucoup à Kevin Mouveau de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse qui va nous accompagner tout au long de ces semaines entre cette saison radiophonique de septembre à juin. Tout de suite, on retrouve Mathias Terrier. On va parler de catéchuménat avec lui et son invité.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité, notre témoin dans cette émission est Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
À 20 ans, on peut dire que votre vie bascule peut-être dans une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Vous avez été baptisé le 19 avril 2025.
C'est ça.
Félicitations.
Merci beaucoup.
On est très heureux pour vous. Vous allez nous raconter ce parcours.
Oui.
Comment vous en êtes venu là? Alors même que on peut dire que vous n'avez pas eu de transmission familiale sur ce terrain du baptême ou de
la foi catholique. J'étais pas prédisposé à arriver à la conclusion de me faire baptiser, c'est sûr.
Vous voyez plein de signes dans votre vie. Vous nous direz aussi comment vous vous sentez guidé quelque part. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous vous sentez bien dans vos baskets? Vous faites quoi dans la vie?
Honnêtement, je pense que ça, c'est depuis très récemment que je peux dire que je vais franchement bien. C'est un sentiment de paix. Évidemment, la foi est quelque chose qui se travaille en continu. Mais comment dire, ce travail de foi m'a donné vraiment un confort, une paix intérieure que je n'ai pas trouvé, disons, dans ma vie pré-catéchuménat, en tout cas, on peut le dire. Et j'avais besoin, en tout cas, d'ordonner cette vie parce que je sentais que la société nous amène vers une vie un peu désordonnée et ça m'a apporté vraiment un confort, une paix.
Donc vous vous sentez bien?
Oui.
Vous êtes opticien?
Oui, c'est ça.
Bien dans votre métier?
Je suis bien dans mon métier. J'ai trouvé une manière, en tout cas, d'aimer mon métier encore plus.
C'est-à-dire?
Durant mon parcours de catéchuménat, j'ai mon accompagnateur, Antoine Calapier, qui m'a conseillé le parcours Zaché. C'est quelque chose d'assez connu. Et il y avait un épisode qui m'a beaucoup intrigué, qui parlait du fait d'être acteur de la création.
C'est vrai
que dit comme ça, enfin, pour quelqu'un qui est fraîchement dans l'église, ça pouvait. J'étais un peu. Je comprenais pas trop la question. Et en fait, ça a pris tout son sens dans l'idée de trouver un sens à son métier, notamment, et même à comprendre comment les autres personnes peuvent être acteurs et actrices de la création. Donc moi, ça peut être avec une activité en dehors de magasin, sage-cabinet, en tant qu'opticien. Ça peut être en allant s'occuper de personnes en situation de handicap, comme de seniors.
C'est-à-dire que vous allez leur régler la vue, les lunettes.
C'est ça. Sur du temps libre, mais je trouve que, enfin, ça a donné vraiment un sens à mon métier. Peut-être qu'un jour, j'ai pas pour vocation de vivre de ça parce que j'ai aucun aspect financier avec ça. C'est ce qui m'a notamment, ça a contribué à ma paix intérieure. Mais ça m'a beaucoup aidé justement à aimer mon métier, parce que un métier notamment de commerce, bah des fois ça peut être compliqué d'être en phase avec ce métier, dans le sens où on doit à la fois être humain mais penser aux commerçants, et c'est vrai que j'ai plus l'approche humaine et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études après les études d'opticien en allant dans la santé, parce que on se rapproche plus du côté humain du métier et voilà.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en paix, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les éléments de votre parcours? À 20 ans, vous diriez que finalement, heureusement que cette idée du baptême a surgi dans votre existence pour remettre de l'ordre. C'était désordonné à ce point avant?
On peut dire que c'était assez désordonné, effectivement. Disons que j'ai eu la chance... dans des moments de solitude où, enfin, j'ai été indépendant assez jeune, et j'ai eu le réflexe de penser à Dieu, de prier, alors même que je n'étais pas baptisé et que j'ai jamais fait de catéchisme, etc. Et je me suis dit, mais pour que ça vienne instinctivement, ça m'avait déjà donné des pistes de, ça peut pas venir de nulle part. Et suite au décès de mon grand-père, j'ai eu un vrai déclic qui m'a poussé le soir même à aller à l'église, et j'ai rencontré les personnes qui géraient le catéchuménat.
C'est votre grand-père qui vous avait transmis quand même quelques rudiments de la foi.
Disons que il m'a pas éduqué énormément là-dessus, mais en tout cas il m'en a parlé, parce que mon grand-père étant espagnol, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en Espagne, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui l'importait beaucoup, mais il n'avait pas la volonté de l'imposer. Et je pense que c'est là que j'avais déjà compris un peu le côté de, on sème des petites graines dans la tête des personnes. Par exemple, je pense à ma petite sœur Cassandra qui n'est pas baptisée et rien qu'en parlant tout à l'heure, je l'ai appelée en étant devant Lourdes, etc. Je lui parle de comment on s'occupe des malades, etc. Et je pense au fait que c'est des petites graines qui après ça sera à elle hein, de et sa foi intérieure de les faire germer. Mais on m'a planté ces petites graines et je les ai fait pousser au moment où je l'ai senti. Voilà.
Donc on verra aussi tout à l'heure ce que vous vivez à Lourdes, parce que c'est la première fois que vous venez en pèlerinage à Lourdes. Le catéchuménat a duré une année et demie.
C'est ça.
Donc c'est un temps durant lequel vous aviez essayé de comprendre si ce chemin était le bon pour vous, apprendre les rudiments de la foi, vous plonger dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là, Raphaël? Une Église vieillissante, rabougrie, parce que oui, c'est l'image qui a parfois hein, et qui peut-être est justifiée d'une certaine façon.
Enfin. Ce qu'on m'avait raconté de l'Église, mais même des personnes étant catholiques hein, qui allaient à l'Église, etc. Je suis dans une ville qui s'appelle Neuilly-sur-Seine où on me disait à là-bas il y a que des têtes blanches. Et au début j'avais pas compris ce que c'était des têtes blanches. Et j'avais compris après qu'il parlait de personnes âgées
qui sont grisonnants au niveau des tempes et parfois même plus. Oui.
C'est ça. Et ouais. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une mixité dans l'âge. Assez impressionnante et il y a notamment un système hors été où il va y avoir plusieurs messes. Par exemple, il y a une messe qui est plutôt dédiée aux personnes assez jeunes où il y a par exemple des instruments de musique, etc. parce que les enfants font beaucoup de bruit, donc ils aiment bien un peu le côté instrument où du coup les jeunes parents y vont. Après on va avoir les messes traditionnelles 11h, 19h et même des repas qui s'organisent après les messes entre par exemple 18-25 ans, 25-35 ans ou même une plus large gamme d'âge. Et du coup ça a été un peu un cliché dont j'avais peur, dans le sens où j'avais peur d'avoir un décalage avec les têtes blanches, disons. Et au final ça n'a pas été le cas.
Ce que vous découvrez aussi, c'est le catéchisme de l'Église.
Oui.
Parce que lorsque la personne qui vous accompagne, c'est Antoine, je crois.
Oui, c'est ça.
Vous dit, lis ça.
Ouais, il savait que il m'avait prévenu que c'était quelque chose de costaud parce que, c'est pas quelque chose qu'on conseille à beaucoup. Enfin, je suis une des rares personnes, j'en connais pas beaucoup.
Peut-être
qu'on
qu'il sentait que vous étiez exigeant et que vous aviez besoin de.
J'ai une approche.
Tout ce corpus,
c'est ça. C'est venu instinctivement, j'ai quand même une approche un peu intellectuelle, rationnelle, même si c'est quelque chose qu'on peut trouver d'irrationnel, de la foi. Et j'avais besoin de ce cadre dans notamment la lecture. Et je trouvais que le catéchisme de l'Église catholique, notamment la doctrine sociale de l'Église, nous donne un cadre assez. C'est vraiment top. Si on a le cerveau solide et qu'on a un peu de temps, franchement, c'est top parce que ça, j'ai l'impression que ça a vraiment remis. Ça m'a fait une page de A à Z de quel cadre se donner et comment je veux évoluer, quel point je veux travailler, etc.
Donc ça a été tout ce chemin que vous parcourez. Vous vous sentez bien tout de suite dans l'Église, dans une Église. En fait, c'est ça aussi que vous ressentiez.
Alors il y a le côté beaucoup de sentiments. Je ressens vraiment la famille, l'Église comme une famille. Ça m'a vraiment, par exemple, mon parrain, je pourrais clairement le considérer comme une figure limite paternelle. Il m'a beaucoup apporté.
C'est Antoine qu'on salue.
C'est ça, Antoine Clapier que je salue. Et même le côté frère et sœur, c'est vrai qu'on entend beaucoup quand on est extérieur de l'Église, frère et sœur, on comprend pas trop parce qu'on pense nous à notre famille. Pourquoi ils disent frère et sœur? Et en fait, on est réunis sur un même socle et c'est les relations les plus saines que j'ai jamais eues de ma vie parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de malsain. Qui vient dans la démarche de se faire, par exemple, baptiser, ou qui vient à la messe toutes les semaines, même des fois tous les jours, etc., qu'on rencontre comme ça dans l'Église. On s'apporte mutuellement, et je ressens honnêtement cette approche de frère et sœur. Et je me plais vraiment dans cette idée-là.
Donc, lorsque vous commencez ce chemin, vous avez déjà le réflexe de prier, vous êtes déjà en attente, tout est ouvert, au fond, pour que vous fassiez toutes ces étapes, vous les accomplissiez les unes après les autres.
Bah, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est chacun a sa manière de prier. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a des personnes qui ont déjà des horaires pour prier, etc. Et moi, là où j'avais beaucoup de mal, c'est pour prier, fréquemment. J'avais l'habitude de prier quand j'avais besoin de me livrer, mais que ça soit dans la joie comme dans la tristesse. Parce que c'est important, faut pas prier juste pour dire ah je suis triste, etc. Non, faut remercier, etc. J'ai pu apprendre. Ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a honnêtement un an de catéchuménat, c'est déjà assez court. Hein. Ça va même prendre 2 ans, même plus, pour les personnes qui n'ont pas forcément un socle de base. Parce que c'est important d'avoir des bases solides, de faire un choix en toute conscience. Et j'ai appris à prier. Par exemple, j'y pensais pas forcément, mais moi, ce qui m'a donné beaucoup de soutien pour prier fréquemment, c'était de prier enfin, les gens ne le voyaient pas, mais je priais dans le métro en allant au travail le matin, parce que comme je travaillais beaucoup, c'est vrai que le soir, je rentrais, j'étais lessivé, je dormais. Le lendemain, je me réveillais, métro, boulot, dodo. Et au final, j'avais trouvé ma joie, ma paix en priant. En intellectualisant la prière en silence, et maintenant je la fais à voix haute, etc. Ça, c'est, on grandit, on s'adapte un petit peu, mais c'est pas, je suis pas arrivé, je savais direct prier, parce qu'on m'a quand même donné par exemple remercier. J'avais plus l'habitude de remercier que de demander de l'aide, enfin de l'aide, en tout cas de
d'avoir un peu de lâcher prise et c'est dire ça. J'ai besoin de aussi de, c'est ça. D'être aidé, accompagné. Ouais.
J'avais du mal à me plaindre, c'est bête. J'étais tellement reconnaissant envers déjà Dieu de la paix qu'il m'apportait, que je me sentais mal de me plaindre pour des petites choses qui pouvaient arriver comme des grandes. Et au final, on se sent tellement bien quand on a ces deux aspects un peu balance de je fais l'état de ma journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? De quoi j'ai pas été fier? Comment m'améliorer, voilà.
Merci Raphaël de rester avec nous. On marque une pause dans cette émission et puis juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, vous qui avez reçu le baptême, donc cette année 2025, le 19 avril, en l'église Saint-Pierre.
C'est ça.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre. À tout de suite.
À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Vous avez reçu le baptême. Et on peut dire que ça, c'est un changement de vie pour vous.
Oui.
Alors, ce changement de vie a été inauguré d'une certaine façon dans toute la période catéchuménale. La question qu'on se pose, vous qui êtes même pas recommençant, qui êtes converti, qui avez même cette fraîcheur du converti, comment ça vous lie à ceux que vous connaissiez, à votre entourage, ou comment aussi ça vous a décalé d'une certaine façon? Est-ce qu'on vous prend pour rôle d'individu qui rentre dans un parcours incompréhensible.
C'est vrai que il y a beaucoup de, en tout cas par exemple des amis que j'ai qui sont assez jeunes, enfin comme mon âge, donc une vingtaine d'années, il y a un peu une vision un peu rustique, un peu moyenâgeuse des fois quand on parle de religion. Enfin en tout cas dans l'idée de croire est moins compliqué à assimiler pour beaucoup de personnes, mais par contre le côté d'aller à la prière par exemple tous les dimanches,
aller à la messe tous les dimanches, vous y allez tous les dimanches,
c'est, enfin je trouve que c'est un indispensable, en tout cas je conseille à tout le monde de le faire, même des choix enfin plus compliqués du style par exemple une vie de chasteté qui est, on l'oublie, mais c'est quand même quelque chose d'assez central au final. Et je pense qu'il y a un vrai décalage. Ça les a un peu choqués, mais ça les a à la fois choqués et en même temps ils se sont dit ça doit forcément être un hyper important pour Raphaël, pour un tel, etc. Pour faire cette démarche-là de changer, j'ai changé sur beaucoup d'aspects de ma vie.
Mais tout de même, Raphaël, vous avez quitté votre petite amie la veille de la Semaine Sainte, c'est ça?
Oui.
Ça pose question. On se dit mais si son chemin vers le baptême rompt les relations avec son entourage, il se passe quelque chose qui peut être interprété comme négatif.
J'avais un peu la prétention, l'orgueil au début de me dire que je suis quelqu'un de plutôt, je pêche pas beaucoup, enfin dans le sens où je suis quelqu'un d'assez sage, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un pêcheur comme tout le monde et je pêche sur beaucoup de choses et j'avais cette vision de vie désordonnée et j'ai eu par exemple notamment dans la vie de couple un réel décalage. J'ai senti que j'avais besoin d'une page blanche, mais sur plein de, par exemple, des caractères que j'avais, j'ai changé sur plein d'aspects, même le travail, etc. J'avais une vision du travail où, moi, si je pouvais travailler 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7, alors que même dans la genèse, il y a un jour de repos.
Et donc, tout ça a changé dans votre vie.
Oui.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a amené notamment vers cette paix que je travaille.
On peut dire que vous étiez en rupture familiale.
Oh, oui. Oui.
Sur ce plan-là,
disons.
Où en êtes-vous ?
Ma famille est au courant que je me suis fait baptiser. J'ai pu voir à quoi ressemblait un baptême avec la famille, etc., de par les catéchumènes avec lesquels je me suis fait baptiser, et c'était très, très joli. Notamment ma sœur, j'ai repris contact avec elle depuis quelques temps, et je lui parle de mon parcours. Et elle a pas pu se déplacer à ce moment-là, etc. Mais je pense qu'il y a un peu cette demande de, en tout cas nous c'est à la fois notre, on est missionné pour ça, un peu le côté évangéliser, etc.
Oui, vous voulez annoncer ce que vous avez reçu.
C'est ça, c'est tellement beau, ça m'a tellement apporté. Que...
Même avec un peu trop de zèle parfois, non?
Bah oui. Il y a beaucoup de gens qui.
En tout cas, ça vous a permis de renouer avec votre sœur, votre petite sœur. Enfin, c'est en ça que vous avez eu cette envie.
Quelque chose de très important qu'on nous enseigne, c'est par exemple honore ton père et ta mère. Et il y a plein de gens qui ont des parcours familiaux plus ou moins faciles. Ouais. Et avec Antoine, on se disait, mais
enfin, comment j'honore mon père et ma mère ?
C'est ça. Alors que je les respecte énormément parce que c'est quand même mes parents, ils m'ont donné la vie, etc. Mais comment pardonner s'il est arrivé, il y a des personnes à qui il est arrivé des choses plus ou moins compliquées avec leurs parents et ça peut être difficile de pardonner. Et en fait, on se sent tellement bien, on est libéré. Une fois que c'est arrivé, et il faut penser à quelque chose. C'est honore par exemple ton père et ta mère. C'est pas forcément reprendre contact quotidiennement avec eux. Ça peut juste être envoyer un message. S'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Mais moi, j'ai ouvert mon cœur et je ne suis plus en colère avec ça. Je suis en paix avec ça. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis en paix aujourd'hui, parce que j'ai pu mettre à plat beaucoup de choses dans ma vie. Et j'en ai encore à mettre à plat, et c'est ça la beauté aussi.
Donc vous vous sentez un peu plus acteur de la création, vous honorez votre père et votre mère, ne serait-ce que par la pensée, la prière,
oui. Hein,
et puis être en paix avec tout ça. Parlons maintenant de Lourdes. C'est votre premier pèlerinage à Lourdes, dans le cadre du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette belle famille assomptionniste, hein, et en particulier auprès des personnes en situation de fragilité et de maladie. On a le sentiment, en vous écoutant, à plusieurs reprises, que la question de la fragilité, du soin, de l'empathie, de la proximité avec l'autre, c'est assez central, en fait, dans votre relation humaine.
Ça demande quelque chose qui n'est pas forcément facile. C'est à la fois mettre son ego de côté, être humble, se mettre au service des autres. Et c'est quand je parlais du parcours Zaché tout à l'heure... C'est une question que je me suis posée. Comment une personne, par exemple, qui ne peut pas parler, bouger, comment elle est actrice de la création? Alors qu'au final, de par mon parcours de catéchuménat, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus beau. Enfin, toutes ces personnes qui se mobilisent autour d'eux, ça ne serait pas...
Et cet échange qui naît de...
Mais oui, il nous apporte tellement. De manière égocentrique, on peut penser que c'est nous qui les aidons. Mais il nous apporte tellement, je pense à Fabrice là dont je m'occupe cette semaine, qui a un autisme assez sévère, etc. Il peut pas communiquer, en tout cas par la parole, mais il m'apporte tellement, il est hyper actif, etc. Mais ça se voit, il est heureux à la fois d'être là, c'est leur moment dans l'année, faut pas se dire que parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler, ils ne comprennent pas. Ils sont heureux d'être là. Ils sont heureux que des gens se mobilisent parce que quand je vois le regard de personnes qui regardent des personnes, par exemple, en situation de handicap dans la rue, hein, à Paris, etc., on peut avoir un regard un peu étrange, un peu surnaturel. Enfin, y en a qui peuvent penser, par exemple, à des sous-hommes, entre guillemets, alors que non, pas du tout. Et Lourdes est vraiment dans cette démarche de les remettre au centre. Et je trouve ça magnifique. Je suis très content d'être venu à Lourdes. J'ai rencontré beaucoup de... J'avais peur en venant à Lourdes qu'il y ait beaucoup de têtes blanches. Et au final...
Et puis vous aviez peur aussi, je crois, de la dimension assez touristique, enfin, du c'est monde, ça. Des commerces, de
oui.
tous les établissements de services que sont les hôtels et autres, bon, qui sont nécessaires au demeurant.
Qui sont nécessaires, qui sont
pour accueillir toutes ces personnes.
J'avais un peu une vue un peu d'un mauvais œil de tout ce qui était commerce et tout. Je me disais, mais c'est pas forcément le lieu. Et au final, je me rends compte que tout le monde, bien qu'ils viennent en tant que touristes comme pour aider, bah, ils sont là dans la démarche de venir à Lourdes. Donc déjà, c'est magnifique et c'est important de discuter avec eux comme avec des personnes qui aident. Et c'est la beauté de Lourdes aussi. Oui. Et une mixité.
Donc vous diriez que pour être dans le cheminement après votre baptême, venir faire ce service et rendre ce service à Lourdes, auprès de Fabrice. Hein,
c'est ça.
Oui, en l'occurrence, c'est Fabrice qui vous accompagne. En fait, ça consolide encore votre démarche.
Ah oui. Bah, de toute façon, je pense que personne, une fois baptisé, n'a plus, enfin, c'est pas, on est baptisé, on a un tampon et voilà, je veux au paradis, je sais pas, il y en a, ils disent ça, par exemple, aller à la messe, c'est quelque chose de central, et je pense que le pèlerinage est quelque chose de central aussi dans sa foi. Comment, je pense que c'est le meilleur moment, même si on, par exemple, quand on aide, faut pas oublier la démarche de s'introspecter, enfin, de penser à soi aussi, de se balader dans la grotte, etc. C'est hyper important. Il n'y a pas plus beau moment. J'ai rencontré quelqu'un qui a enchaîné un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a marché pendant 35 jours, qui après a enchaîné avec Rome, et là qui enchaîne avec Lourdes. Et il fait ça, il s'est dit cette année, j'ai envie de les enchaîner. Et je trouve ça trop beau. Et on voit, il est vraiment parti avec plein de questions. Et il le sent et ça se voit, il est apaisé, il a pu s'introspecter de A à Z, en tout cas à l'instant T, et il est vraiment hyper heureux de soi, et moi je suis heureux aussi d'être là.
Alors Raphaël, si on faisait juste un peu le point, vous partiez dans la vie avec peut-être quelques difficultés familiales, vous réussissez bien dans vos études, vous devenez opticien, vous avez une licence, je crois même.
Oui, c'est ça.
Bon, la profession, c'était hyper important. Et vous voici maintenant baptisé après un beau parcours de catéchuménat. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Qu'est-ce qui est devenu central? Qu'est-ce qui a changé complètement dans votre perspective?
Alors, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup au travail, de par le fait que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'aime beaucoup le travail et j'avais une perception du travail où plus je travaillais, plus j'étais content. Et au final, par exemple, en utilisant mon temps libre pour utiliser une autre facette de mon travail, ou en travaillant plus 7 jours sur 7, par exemple, mais en attribuant, par exemple, le dimanche pour la messe, etc. Ça m'a donné un cadre que je compte développer. Notamment, j'étais prédestiné, disons, à partir à l'étranger. Là, c'est vraiment tout.
Vous avez une proposition de,
c'est ça, ça
de
fait,
travail à l'étranger.
Ça fait un mois et demi qu'on en discute, que j'ai des appels, et le jour même, c'était dimanche dernier, le jour même où on m'envoie le contrat, on me dit bravo, vous êtes sélectionné. Voici l'offre.
Et vous avez dit non.
Au début, je comptais aller dire non, et je vais à la messe, et j'ai le père Santis qui est vraiment une super personne qui me propose d'aller dîner. Et du coup, on dîne, je lui explique, on se parle de nos vies respectives et tout, et je lui raconte que je viens d'avoir le contrat. Et en fait, il me fait comprendre, et il m'a pas obligé, c'est moi qui ai écouté ses arguments et ça m'a touché profondément, que je veux vivre mon néophyta dans ma paroisse et avoir des bases solides après mon baptême, parce que c'est un socle dans la vie, enfin, c'est vraiment central. Travailler à l'étranger, je peux le faire dans 2 ans, comme dans 5 ans, comme.
Donc vous restez là.
Je reste là, dans la joie. Hein. Dans la joie, c'est pas un regret justement. Ma sœur me disait, faut pas que je regrette le choix, etc. Parce que c'est quand même des belles propositions. Mais je suis en paix avec cette décision. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait et j'ai hâte de voir, par exemple. Le Père Santis m'a parlé d'un livre, Les Confessions de Saint-Augustin. Il m'a dit, lis ça, c'est parfait pour, quand il voyait la vie, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui, etc., la société d'aujourd'hui. Lis ça et tu vas voir que vous n'êtes pas seul, tout le monde n'a pas eu une vie directement à, où on, disons dans avec un minimum de péché sans la vie de couple, etc. Et Saint Augustin en est le parfait exemple, et je l'ai lu et j'ai trouvé qu'en fait chacun pouvait trouver, bah par exemple ces livres, ces versets, ces psaumes. J'ai quelqu'un dans l'église qui dans ma paroisse qui aime beaucoup les psaumes. Il est fan de ça. Il se retrouve beaucoup dans ça. Chacun trouve son petit élément qu'il préfère.
Bon, mais voilà votre conseil de lecture. Le conseil de lecture de Raphaël, fin d'émission, c'est lire les Confessions de Saint Augustin.
C'est ça.
Tout un programme. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes.
C'est ça.
Saluez bien Fabrice pour nous, tout votre entourage, tous ceux qui vous ont accompagnés. Et bon vent pour la suite.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
In unitate fidei, dans l'unité de la foi, c'est le titre de la lettre apostolique.